Voilà, il y a 2 mois déjà, on a commencé à travailler un petit peu la christologie. Alors, j'aimerais continuer. Il y a, donc, début janvier, il y a eu un petit souci avec l'enregistrement donc, qui a été perdu. Donc, je vous referai juste un petit résumé du premier épisode. Et puis... on continuera ensemble. Depuis, ça avait fait écho chez Laurent, qui nous avait parlé du Christ venu en chair. On a eu Dominique Sabel, qui nous a parlé donc, de Actes 2, 42, de tout ce que les apôtres ont enseigné, et comment être témoin dans l'Église. Nabine a fait... Bon, pour moi, ce qui était quand même aussi un écho dans le fait de travailler à son salut. Et puis, dimanche dernier, donc, on a Dominique Taillefer qui nous a parlé du Messie. Donc tout ça, c'est un petit peu des parties déjà de la christologie. Donc voilà, ça me conforte aussi que c'est une bonne ligne d'inspiration. Dans tout ce qui est lié à la doctrine chrétienne, j'aime particulièrement la christologie. Comme on dit, si je devais emporter une partie de la doctrine sur une île déserte, l'île de Groix, moi c'est un peu moins désert, mais j'emmènerais la christologie. Christ est au centre de notre foi puisque nous nous appelons chrétiens. Donc si nous sommes chrétiens, eh bien c'est que Christ est au cœur de notre vie. Et je trouve qu'une église qui vit bien et qui comprend bien toute cette doctrine de la christologie, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai qu'on a eu le privilège, il y a une trentaine d'années, d'avoir un bon enseignement là-dessus. Il était tiré d'un théologien qui s'appelait Oscar Kuhlmann. Alors Jean-Marc, il est barthien, il aime bien Barthes. Mais voilà, moi j'aime particulièrement la christologie d'Oscar Kuhlmann. Un jour, j'ai fait une expérience rigolote, c'était en 96. J'étais à la Troquante à Lorient. Ils ont plein de livres en vrac, et en fouillant dans les livres en vrac, j'ai trouvé cette christologie du Nouveau Testament d'Oscar Kuhlmann. Ça a été édité en 1958. Donc ça veut dire que les 20 ans avant, il a travaillé le sujet. Donc, c'est un homme qui a travaillé depuis les années 40. J'ai été voir hier sur Internet. On ne peut pas le trouver en PDF, c'est trop gros. Je ne sais pas si c'est toujours édité. J'en ai trouvé d'autres en parlant avec Dominique Taillefer la semaine dernière. Donc, lui, il travaille avec la christologie de René Pache. Pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, c'est un homme de Dieu qui est décédé maintenant, mais qui a écrit de très gros livres sur l'inspiration, l'autorité de la Bible, sur une destinée éternelle, théologie du Nouveau Testament, et puis entre autres christologie. Et beaucoup de... Voilà, il a eu des disciples, il a eu des continuateurs. Et ça, par contre, on peut le trouver sur Internet. Du coup, j'ai été pioché dans d'autres domaines, voire sur la théologie catholique. Donc j'ai réussi à sauvegarder tout ça sûrement. Mais ce que je préfère, c'est cette théologie d'Oscar Kuhlmann. Et puis on va voir un petit peu le détail de tout cela. Ce qui est important dans ce travail qui a été fait, déjà, c'est le fondement de la christologie. Donc on a vu qui est l'Écriture, et qui est la manière dont l'Église, dont les premiers apôtres et dont l'Église a compris cette christologie. Beaucoup de fausses doctrines sont nées dès la fin du 1er siècle et concernent principalement qui est Christ, c'est-à-dire la christologie. Elles ont fait leur chemin, elles existent encore aujourd'hui. Si vous prenez les Mormons, les témoins de Jéhovah, si vous cherchez ce qu'ils disent de Christ, je suis désolé, mais je n'adhère pas. toute église qui a une christologie en place, qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit voilà, baptiste, etc., la plupart du temps, on pourra être d'accord, on pourra prier ensemble, on pourra collaborer, on pourra voir si la christologie est bien en place. Toute personne n'ayant pas une christologie bien cadrée, je reste voilà, toujours un petit peu circonspect et puis je prends mes distances. Pour moi, c'est vraiment la, je veux dire, une des choses les plus importantes du monde. Et dans le christianisme, c'est pour moi une des choses les plus importantes, crier Christ. Et entre autres, selon l'Écriture. Jésus nous dit dans Jean 7, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra que cet enseignement vient de Dieu. » Même Jésus, son enseignement était tiré de celui qui était en lui et au-dessus de lui, de son Père. Jésus n'a rien dit qui ne vienne de lui-même. Ça peut sembler extraordinaire. Tout ce qu'il nous a dit venait du Père. Là, le christianisme, c'est un peu comme les poupées russes ou comme les enfants quand ils jouent avec des cubes en plastique, du plus grand au plus petit. Quand on les ouvre, on en retire quelque chose. Je me rappelle encore nos filles, quand elles étaient petites, on avait ce jeu, dans le grand cube, il y avait un cube moyen, un grand cube, et puis on pouvait les retourner puis faire un tour. Tout ce qui est de la doctrine est fondé sur Christ. C'est Christ qui est la base. Sans lui, tout s'écroule. Et c'est vraiment la chose importante. Et c'est pourquoi c'est intéressant de le voir. Dans 2 Jean, il nous est dit, « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. » C'est quelque chose de sérieux. Toute l'Écriture nous exhorte à être dans la doctrine de Christ, selon l'Écriture, selon l'enseignement des apôtres et selon cet enseignement qui continue jusqu'à aujourd'hui. Révélation selon l'enseignement des apôtres, on a vu ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres, d'autant plus nous voilà, qui avons pour nom Église apostolique. Je raconte souvent mes premiers mois de conversion, je lisais les Actes des apôtres. Puis en lisant le livre des Actes des apôtres, je découvrais une église, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai dit au Seigneur, je veux vivre dans un milieu, dans une église qui vit la réalité des Actes des apôtres. En dessous de ça, c'est pas bien, il y a quelque chose qui manque. Alors ça ne veut pas dire que le vécu de cette église dans son ensemble soit toujours opérationnel ou extraordinaire ou... Mais voilà, je suis content que, d'avoir rencontré dans tous les cas une église qui ne renie pas tous ces points d'une christologie fondée sur l'enseignement des apôtres. Révélation selon l'enseignement de la première église, Éphésiens 4, 14. « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. » Pouvoir grandir en force, en puissance, en autorité, en intensité dans le christianisme. Pour moi, c'est aussi découvrir la christologie qui est Christ. Son œuvre, son identité, ses fonctions, ses titres, tout ce qu'il est. Hébreux 13, 16. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet, c'est une galaxie. C'est même plus du choix. Moi, j'y vais pas, donc je vous rassure, ou très peu. Je suis pas... Peut-être alors j'ai assez de livres à la maison. J'ai assez de choses à m'occuper. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enseignements chrétiens. Aussi, apprenons à avoir du discernement, à prendre du recul, à juger, à tester, à discerner les choses, et ne partons pas à l'aventure. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. L'apôtre Paul dit à Tite, « Pour toi, dis ce qui est conforme à la doctrine. » Donc vous avez la possibilité, si un jour ici on déraille, Jean-Marc, moi ou quelqu'un d'autre, et bien de venir nous tirer par la manche et puis dire « Là, il me semble. » Et de faire comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire de... Voilà, toujours venir chercher dans l'écriture et puis poser la question, Seigneur, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est vécu? Christologie peut être vécue dans chacune de nos vies, c'est tellement extraordinaire. Nous allons avoir toute l'éternité pour connaître Christ. Commencer dès aujourd'hui, dès notre vie sur terre, c'est tellement merveilleux. De savoir qui il est, de pouvoir l'élever dans nos vies, que cela puisse aussi alimenter la louange, l'adoration. Hier après-midi, après notre balade, j'ai refeuilleté tout le début et j'ai lu toute la conclusion, toute la fin de cet ouvrage. Et je trouvais ça tellement extraordinaire. De découvrir et toujours découvrir et pouvoir laisser monter la louange, l'adoration. Oui, Seigneur, c'est toi qui es comme cela. C'est toi qui es tellement merveilleux, tellement, voilà, tellement de descriptions extraordinaires. La doctrine, l'enseignement, c'est connaître le Christ mort, crucifié, ressuscité, mais qui est aussi la vie éternelle. On peut lire Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai découvert un jour que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose d'éthéré. Ça peut être une promesse, bien sûr, c'est une promesse de Christ. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Les gens ont l'impression que c'est un petit strapontin comme ça dans le ciel un jour. Vie éternelle, vie, c'est le mot Zoé. C'est la vie animale, charnelle. La vie éternelle commence déjà dans mon corps. Et elle continuera dans un corps de résurrection, un corps de gloire. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. Un corps qui est semé méprisable, un corps qui est semé limité, etc. Et puis Dieu va le ressemer. Et avec cette vie de résurrection, nous aurons à nouveau... La vie éternelle continuera. Chacun, dans son imaginaire, peut se poser la question ce que c'est que la vie éternelle, l'éternité. Pour nous, nous sommes régis par des cycles de 24 heures, par des mois lunaires ou solaires, et puis ça dure comme ça depuis quelques millénaires. On ne va pas faire de l'astrophysique, mais si vous regardez cette fameuse équation de Einstein, E égale mc2, c'est ça. Mais ça veut dire que dans d'autres parties de l'univers, le temps est peut-être différent. L'Écriture dit que Dieu a son temps, et le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le nôtre est parfois à courte vue, parfois... Notre temps, il est retenu par le passé. Il y a des tendeurs, il y a des liens du passé qui nous... Le temps de Dieu, le temps de Christ est différent. Tout l'Ancien Testament, Jésus a été annoncé, et puis il est venu, et notre temps a commencé, en calcul, avant, après Jésus-Christ. Et puis pour l'Église, pour Israël, aujourd'hui, nous attendons le Messie qui vient. Et nous en a été parlé dimanche dernier. Il va venir dans le temps de Dieu. Dieu en son temps. Mais la vie éternelle, elle est déjà en moi. il y a déjà quelque chose qui est semé en moi et qui va durer pour l'éternité. Le Christ est le Saint de Dieu, Jean 6, 68-69. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Rencontrer Jésus, c'est rencontrer celui qui est défini comme le Saint de Dieu. Et c'est Simon-Pierre qui dit ça. Il le reconnaît. Est-ce que j'ai reconnu Jésus comme étant le Saint de Dieu? Il y a une différence entre Christ et moi. Il est le véritable. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez comme l'apôtre Jean répète souvent, c'est plus qu'une formule, cette vérité. Christ est la vie éternelle. Il est le Saint de Dieu, il est aussi le véritable. Quand j'avais 20 ans, je me suis mis tout d'un coup en recherche de ce qui était vrai. J'ai étudié beaucoup de religions, le yoga, le zen macrobiotique, le bouddhisme. Et puis je me disais, ben après je vais réétudier le christianisme. Et puis, ouais, voilà, moi je... Il y a un orgueil tellement énorme aussi à faire ses recherches. Puis après, ben, on part dans d'autres choses. Qu'est-ce qui est véritable dans ma vie? Est-ce que j'ai posé ce fondement de Christ? Connaître Christ, c'est connaître le Père. C'est être rempli de l'Esprit. La vérité, c'est quelque chose de concret. Les Européens, les Français en particulier, sont tellement dans le domaine des idées. La vérité, c'est Dieu venu en chair et qui m'interpelle par son esprit. Puis tout d'un coup, quand on réalise que, ben oui, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai une psychologie, mais j'ai aussi un esprit dans lequel Dieu peut poser son nom, sa personne, sa parole, et qui me secoue, qui m'interpelle. Puis là, il y a quelque chose, la vérité devient quelque chose de concret. C'est une personne, c'est Christ, et ça peut changer nos vies pour l'éternité. Il nous donne l'intelligence. Je ne sais pas si vous avez peur d'être bête. En France, c'est tellement... l'intelligence est tellement mise sur un piédestal. On pense toujours que... Les scientifiques, les politiques, les ceci, les cela, le monde des médias, tout le monde veut être intelligent et surtout plus intelligent que son voisin. Et tout le monde défend son bout de grain, surtout en ce moment, période préélectorale, tout le monde va dire oui, c'est moi qui ai le mieux compris les enjeux, c'est moi qui ai écrit le meilleur livre, c'est. Il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Il y a une paix de Dieu qui s'installe quand la vérité, quand le véritable est en nous. Il a dit que c'est au-delà, c'est plus grand que nos propres pensées, nos propres sentiments. C'est tellement reposant de savoir que la vérité ultime, la vérité la plus profonde, c'est Christ. Et quand il vit en moi, je suis debout ou appuyé ou avec une assise, avec l'assise de Jésus-Christ, celui qui est vrai, celui qui est le véritable. Laurent nous en avait parlé, connaître le Christ du Nouveau Testament, c'est connaître la parole faite chair, La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire, celle du Fils unique venu du Père. Jésus a une épaisseur historique. L'Écriture nous parle de Jésus de Nazareth. Il est né dans un petit pays du Moyen-Orient. Jésus-Christ de Nazareth, il y a une épaisseur historique. Je poursuis. Connaître le Christ du Nouveau Testament, c'est connaître le Christ qui vient avec sa grâce et sa vérité. Jean 1, versets 15 et 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas seulement le véritable, celui qui est la vérité, mais il y a encore une dimension supplémentaire. Il vient avec la grâce de Dieu, avec la réconciliation. Quelque chose de plus profond. On peut combattre avec la vérité. Elle est opposée à l'erreur. On peut aussi combattre avec la grâce, avec l'amour. Christ apporte dans notre vie les deux. Il nous met en face de sa vérité, de notre vérité, de ma vérité. Les philosophes ont toujours cherché à savoir qu'est-ce que l'homme ? C'est une vieille interrogation. De là les rites de la naissance, les rites mortuaires, etc. Parce qu'on se dit, c'est pas possible que quelqu'un qui soit né disparaisse comme cela. Donc, dernièrement, je crois que c'est en Afrique. On vient de découvrir une crotte avec des corps qui ont été mis il y a des millénaires. Cette interrogation toujours, qui suis-je, d'où je viens ? Christ nous propose cette chose. Il est la grâce et la vérité. Et ces choses-là peuvent être en nous en plénitude, Jean-Marc en a parlé. Dans l'introduction. La parole faite chair, la grâce et la vérité, Christ est le Fils unique. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. L'image devient un petit peu plus fine, un petit peu plus contrastée de Dieu en Jésus-Christ. Si j'enlève mes lunettes, j'arrive à voir que c'est des personnes qui sont assises sur des chaises. Hugues a une belle chemise bleue, je pense à rayures avec des carreaux, mais ce que je vois est imparfait. Si je mets mes lunettes, c'est 10 sur 10. Juste pour la petite histoire, sans les lunettes, je vois 0,5. C'est-à-dire que je ne vois même pas les grosses lettres MCF ou ZU qui sont en bas. Je connaissais par cœur toutes ces lettres. C'est-à-dire que sans les lunettes, je ne vois même pas les grosses lettres qui permettent de voir. Avec Jésus. Je peux voir qui est Dieu. Mais ça se passe aussi à l'intérieur. On prend l'illustration de lunettes comme cela. Jean-Marc connaît l'histoire, mais à une époque au Danemark, au bout d'un an, on était considéré comme Danois. Donc la sécurité sociale était gratuite. Donc je me suis dit, tiens, par coquetterie, je vais essayer les lentilles. Et puis, j'ai eu des lentilles bien formées à mon œil, légèrement colorées. Et puis, pendant 3 semaines, j'ai essayé de les porter. Et puis, j'avais des allergies, des intolérances. Alors, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis, juste, voilà, c'est pour vous raconter une petite anecdote marrante. J'aime aussi démontrer que vivre avec Dieu, ça peut être aussi vivre avec quelqu'un qui a de l'humour. Je me rappelle, un après-midi, je marchais dans les couloirs, et puis j'ai dit, voilà, Seigneur, je fais quoi? Et la réponse que j'ai eue, c'est persévère. Alors je vous laisse jouer avec le jeu de mots. Entre persévère, c'est-à-dire aller de l'avant, persévérance, ou bien persévère, perdre sévère. Et finalement, il m'a laissé le choix. Mais avec les allergies, comme ce n'était pas super, voilà, j'ai abandonné. Donc parfois, si le Seigneur vous répond avec humour, et avec énigme, ne soyez pas déstabilisés. Mais voilà, Dieu parle aussi à des êtres responsables et parfois il peut nous surprendre. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui le fait connaître. C'est un privilège extraordinaire que Dieu, au travers de son Fils, nous permette aussi de le rencontrer, de le comprendre, de marcher avec lui. Et de savoir que voilà, jusque dans la vie éternelle, nous serons en relation avec celui qui a créé le ciel et la terre. La terre, c'est compliqué à comprendre. Si vous faites de l'astrophysique, en ce moment, j'ai un site internet qui s'appelle Futura Science. Donc tous les jours, j'ai les dernières découvertes. On est en train d'essayer de découvrir les ondes gravitationnelles. Je vous explique pas ce que c'est, j'ai déjà de la peine moi-même. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que là aussi, avec ces ondes gravitationnelles, le temps est différent. Donc là aussi, il faut remonter à toutes ces choses liées aux découvertes d'Einstein. Rencontrer Dieu en esprit, en vérité. Rencontrer Dieu avec sa grâce. Rencontrer Dieu au travers de son Fils, l'unique. Il est celui qui nous révèle le Père. C'est tellement grand, c'est tellement beau d'aller plus loin. Rencontrer Dieu, je fais un dernier point, selon la Trinité. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Christologie parle de Christ. Mystère de la Trinité parle de Dieu, Père, Fils. Et esprit. Et ce qui vient en premier chez Paul et dans ce texte, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que nous soyons porteurs, que nous soyons régénérés, vivants par la grâce de Dieu. Au travers de cette grâce, que nous puissions comprendre et vivre et recevoir l'amour de Dieu, le Père. Et qu'en plus, nous soyons en communion avec le Saint-Esprit, plénitude de Dieu, Dieu en trois personnes. On verra les fois prochaines, je vous parlerai quand même de toutes les fausses doctrines qui sont arrivées avant la fin du premier siècle et en tous les cas au milieu du deuxième, parce qu'aujourd'hui elles arrivent déguisées, l'ennemi n'a pas cessé d'essayer de les remettre au goût du jour. Et puis on verra la christologie au travers des titres de Jésus-Christ. Ces titres relatifs à l'œuvre terrestre, Jésus le prophète, le serviteur souffrant, l'ébède Yahvé, le grand prêtre, l'intercesseur, médiateur, avocat. Les titres de Christ liés relatifs à son œuvre future, Messie, Christ, fils de David, le fils de l'homme. Relative à son œuvre présente, celui qui est Seigneur, Kurios, le Sauveur, Soter, relative à sa préexistence, celui qui est la Parole, le Logos, le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, on verra d'autres titres, l'Agneau de Dieu, le Juge, le Saint de Dieu, le Roi, le Shiloh, il y a tellement de. C'est ça aussi, toute cette réalité, toute cette plénitude de titres, de fonctions. qui sont en Jésus-Christ et que je trouve tellement extraordinaires. Alors tous les 10 ans, je me dis, voilà, ça vaut le coup de le réinjecter et de nous rendre sensibles à cette chose. Merci pour votre attention. Si vous voulez des petits polycopes, je les laisse là, vous pourrez en récupérer.